Patage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h.
Sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage
contre toutes les cages.
Bonjour, vous êtes bien sur Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Ce soir, on est en direct depuis les studios et on va parler du fichage ADN. Donc, moi, c'est Alix.
Salut, c'est Gomme.
Et on a une personne à la technique.
Salut, c'est Avril.
Salut, c'est Avril.
Ça commence fort à la technique.
Envoyé. Tout va bien. Un peu fatigué, mais tout va bien.
Et du coup, pendant l'émission, vous pouvez nous appeler au studio au 01 43 71 89 40. Sinon, vous pouvez nous joindre le reste du temps par mail, carapatage@riseup.net, par courrier au
4 Villa Stendhal, STENDHAL 75 020 Paris.
Voilà, et sur Insta à @carapatage. Donc avant de commencer notre thématique d'aujourd'hui sur le fichage ADN, on va d'abord faire quelques brèves d'actualité. Et donc du coup, on va faire d'abord quelques brèves d'actualité, après le fichage ADN, et après on terminera avec une chronique sur un livre qui a été écrit collectivement et qui s'appelle Subtil Béton. Et donc d'abord, les brèves d'actu, on voulait parler, donner quelques infos sur la construction des nouvelles prisons en cours.
Ouais, le plan des 15 000 places dont on a déjà pas mal parlé ici à Carapatage. Du coup, je vais donner quelques nouvelles. Première nouvelle, il y a eu le résultat de l'appel d'offres pour la conception-réalisation de la nouvelle maison d'arrêt à Tremblay en France, à côté de l'actuelle maison d'arrêt de Villepinte, dans le 93. Et donc les heureux élus sont l'entreprise qui est mandataire, c'est Bouygues Bâtiments Île-de-France, les architectes paysagistes, c'est Carta, Reichen et Robert, le bureau d'études techniques OTEIS, le bureau d'études structure Bérim, le bureau d'études environnementales Diagobat et le constructeur donc Bouygues Bâtiments Île-de-France, Bouygues Bâtiments Nord-Est, Colas Île-de-France, Normandie. Donc les travaux sont prévus de commencer au premier semestre 2024 pour une livraison en 2027. Deuxième info, ça concerne le futur centre pénitentiaire du 94, Val-de-Marne, qui veulent construire à Noiseau. Et là-bas, il y a la concertation préalable qui est en cours. Du coup, la concertation préalable, c'est ce qu'ils font avant de lancer une enquête publique qui elle-même leur permettra de déclarer le projet d'utilité publique, ce qui leur permettra de changer le plan d'urbanisme local et d'exproprier, en l'occurrence, les agriculteurs sur les terres desquelles ils veulent construire. Il y a une contestation locale des habitants-habitantes là-bas. Il y avait déjà eu deux manifs. Et là, pour la première réunion de la concertation préalable, il y avait 600 personnes qui s'étaient déplacées contre le projet. C'était le 19 janvier. Ils avaient des drapeaux et des banderoles « Noiseau dit non à la prison ». Bon, alors c'était surtout de ce qu'on a vu dans la presse, c'est des arguments plutôt « pas dans mon jardin » qui parlent de la saturation du trafic, la baisse du prix de l'immobilier, la disparition des terres agricoles et la baisse du cadre de vie et aussi l'insécurité. Et avec une contestation qui est soutenue par les maires, les Républicains du coin. Mais on voulait quand même en parler parce que c'est assez ouf, 600 personnes qui se déplacent à ce genre d'enquête où en général il y a 3 personnes. Et il y avait aussi des personnes qui étaient venues de Crisnois, qui est une autre petite ville, enfin même un village en Île-de-France dans le 77, où il y a aussi un centre pénitentiaire qu'ils espèrent construire, et où il y a aussi une mobilisation locale, et du coup il y a des gens qui s'étaient déplacés de là-bas pour venir soutenir les autres à Crisenois. La dernière info que je voulais donner, on part un peu plus loin, ça concerne Toulouse, où il y a une maison d'arrêt qui va être... Il y a un projet de maison d'arrêt à Muret, qui est une ville à côté de Toulouse, où il y a déjà un centre de détention. Et dans le cadre d'un week-end anticarcéral, du coup c'était fin janvier, il y a eu une manifestation dans le centre-ville de Muret d'environ 80 personnes, avec derrière une banderole, avec des collages, des slogans, des tracts qui ont un peu bloqué la circulation de la départementale qui traverse cette petite ville. Et donc cette fois avec voilà, un discours clairement anticarcéral contre la construction de cette prison à Muret, mais aussi contre toutes les prisons. Et voilà, c'était les quelques infos que j'avais à donner concernant les luttes contre les nouvelles prisons.
On voulait aussi vous parler de la loi Casbarian-Berger, donc, qui est dite loi anti-squat. C'est après avoir fait pleurer dans les chaumières sur... des personnes qui, en rentrant de vacances, ne pourraient pas rentrer chez elles parce que leur maison a été squattée pendant leur départ, ou le pauvre retraité qui part à l'hôpital et qui, quand il rentre chez lui, voit sa maison squattée et se retrouve dehors. Du coup, ils se servent de tous ces faits divers, souvent mensongers en plus, comme ils ont montré, pour faire passer une nouvelle loi. Cette nouvelle loi, elle a été déjà votée en première lecture au Sénat il y a quelques jours, et du coup elle va de nouveau passer à l'Assemblée bientôt. Cette nouvelle loi, elle prévoit notamment du coup de raccourcir les délais pour les expulsions et de renforcer la répression à la fois des personnes qui peuvent pas prouver qu'elles se sont installées avec le consentement du bailleur. Donc ça concerne toutes les personnes qui squattent, mais aussi toutes les personnes victimes de marchands de sommeil, où quelqu'un leur a fait croire qu'il était propriétaire et leur a fait signer de faux bails contre un loyer. Et du coup, ça rend passible de 3 ans de prison l'occupation d'un logement si la personne n'arrive pas à prouver qu'elle est rentrée avec le consentement du propriétaire. Donc aussi tous les propriétaires qui louent sans avoir le droit de louer et qui vont dire que du coup ils n'ont pas réellement loué et que la personne elle est rentrée sans leur consentement dans le domicile. Voilà, du coup il y a eu des manifestations dans un peu toute la France le 28 janvier. Il y en avait une à Paris qui partait de Bastille pour aller vers le Sénat, où il y avait environ 2000 personnes dans la manifestation. Après, on voulait aussi revenir du coup sur la situation d'Alfredo Cospito.
Oui, on a parlé dans les dernières émissions, on a donné à chaque fois quelques nouvelles de lui. Donc il y a un anarchiste italien qui est en grève de la faim aujourd'hui depuis 119 jours, donc est incarcéré en Italie sous le régime d'isolement du 41 bis, qui est le régime d'isolement le plus dur en Italie, et du coup qui se bat contre l'existence même de ce régime par sa grève de la faim. Donc récemment, il a été transféré dans un hôpital à Milan. Du coup, il était dans une prison. Il avait été transféré depuis la prison de Sardaigne où il était, dans une prison à Milan, mais toujours en 41 bis. Là, il a été transféré de la prison à l'hôpital, mais toujours dans une chambre qui est réservée aux prisonniers 41 bis. Dans un état de santé grave, même si il arrive toujours à marcher. Et il a une audience qui est prévue le 24 février devant la Cour de cassation qui doit réexaminer cette décision de l'isolement 41 bis. Et là, le procureur, il y a quelques jours, a annoncé qu'il allait demander l'annulation de cette décision, ce qui est plutôt bon signe. Et ce qui a fait que Alfredo Cospito a recommencé à prendre des compléments, ce qu'il avait arrêté de faire auparavant, quand il y a eu cette annonce. Mais bon, ça reste dans une semaine, un moment où sa santé est très dégradée. Et en plus, on ne sait pas, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément la réponse le jour même, ça on ne sait pas. Il y a toujours des manifs et des actions de solidarité qui ont lieu tous les jours un peu partout en Italie et ailleurs. Donc les actions, il y a par exemple des sabotages de pylônes électriques et d'antennes relais, des incendies de véhicules, des banderoles, des collages. Il y a aussi des prisonniers anarchistes chiliens qui sont mis en grève de la faim en solidarité avec lui. Je ne vais pas faire toute la liste de ce qui se passe parce qu'il se passe vraiment plein de choses, mais tout est sur le blog luttercontrele41bis.noblogspot.org qu'on vous mettra en ressources dans l'article de cette émission sur notre propre blog. Aussi aujourd'hui, il y a eu un rassemblement très bref d'une trentaine de personnes devant le consulat italien à Paris en solidarité. Et dans la nuit du 13 au 14 février, il y a eu des tags à Lyon sur le consulat italien aussi. Donc en solidarité avec lui, mais aussi en solidarité avec des révoltes qui ont eu lieu dans le centre de rétention de Turin, dont tu vas nous parler, Alix.
Ouais, donc ces révoltes dans le centre de rétention de Turin, elles ont commencé le 4 février. Donc il y a une révolte qui a éclaté à l'intérieur du CPR. Donc le CPR, c'est le CRA du Corso Brunelleschi, si je prononce bien. Donc révolte qui a été bien réprimée par les CRS avec des gaz lacrymogènes. Enfin, grosse révolte, et notamment avec un incendie qui s'est déclaré dans les cantines du CRA. Et incendie qui s'est bien propagé, étant donné qu'aujourd'hui, 3 des 4 zones du CRA sont inhabitables, parce que détruites par les flammes. Il y a eu pas mal d'actions en soutien aussi à l'extérieur, en Italie, des parloirs sauvages, d'autres actions pour soutenir les gens qui étaient révoltés à l'intérieur et qui étaient en train de se faire réprimer. Et du coup, voilà, une révolte qui a abouti à une forte destruction, une destruction d'une grosse partie du CRA. Et à Lyon, il doit y avoir un CRA qui a réouvert aussi, et il y avait une action contre sa réouverture.
C'est ça, le CRA de Lyon Saint-Exupéry, du coup, qui était l'ancien CRA qui avait fermé. Il y a un nouveau CRA qui a ouvert entre-temps. Et là, le 23 janvier, il y avait la réouverture de l'ancien, donc ce qui fait 140 places supplémentaires pour 280 places en tout dans la zone. Et dans la nuit du samedi au dimanche, juste avant la réouverture, il y a l'entrée du CRA qui a été verrouillée par des chaînes et la façade qui a été repeinte par une cinquantaine d'œufs remplis de peinture, avec des tags qui sont aussi apparus aux alentours, avec écrit « Feu au CRA »,« Liberté pour tous toutes »,« No borders, no nations ».
Et enfin, dernière brève, on voulait parler des manifs qui vont avoir lieu ce samedi, le 18 février. Donc c'est des manifs contre la loi Darmanin et contre les CRA. À Paris, la manif, elle est appelée par Lucige, le collectif uni contre l'immigration jetable. Et je vais lire du coup l'appel de la manif. Donc le rendez-vous à Paris, c'est samedi 18 février à 14h à Porte Dorée. Donc marchons sur le CRA de Vincennes. Marchons sur le centre de rétention administrative, CRA de Vincennes, en solidarité avec les personnes enfermées et contre la nouvelle loi Darmanin qui prévoit de renforcer la répression des personnes sans papier en facilitant les arrestations, l'enfermement et les expulsions. La loi immigration vise à distribuer toujours plus d'OQTF. La France est déjà la championne d'Europe des OQTF, plus de 100 000 par an. Mais cela ne suffit pas à Darmanin. La nouvelle loi immigration vise encore à augmenter le nombre d'OQTF en les rendant par exemple automatiques en cas de refus de titre de séjour. En agissant ainsi, l'État condamne les personnes sans papier à la clandestinité, à la merci de patrons qui peuvent encore plus les exploiter. Darmanin parle de gentil et de méchant, ce qui ne signifie rien de moins que « travaille et ferme ta gueule, sinon on te colle une OQTF ». Le nouveau titre de séjour pour les métiers en tension fait courir le risque de perdre très vite ses papiers, notamment pour celles qui se battent pour leur salaire ou leurs conditions de travail. Élargir la double peine. Toujours dans une logique répressive, la loi immigration prévoit que les étrangers condamnés pour trouble à l'ordre public, ce qui est très large, se verront désormais systématiquement refuser ou retirer leur titre de séjour. Darmanin élargit ainsi la double peine qui consiste à expulser des personnes qui ont déjà purgé une peine de prison. Et parce que distribuer plus d'OQTF ne lui suffit pas, le gouvernement veut que toutes les personnes qui en reçoivent soient effectivement expulsées. Pour cela, la future loi immigration prévoit de réduire les voies de recours et d'inscrire les personnes qui ont une OQTF au fichier des personnes recherchées. Pour mener à bien cette politique, l'État a besoin de nouveaux lieux d'enfermement et pour cela, il construit de nouveaux CRA, Lyon, Olivet, près d'Orléans, Nantes, Bordeaux, Ménilamlot. La liste ne fait que s'allonger. La loi de programmation du ministère de l'Intérieur, adoptée le 22 novembre 2022, prévoyait de doubler la capacité des CRA pour atteindre 3000 places d'ici 2027, contre 1500 en 2017. Deux fois plus de CRA, ça veut dire deux fois plus de sans-papiers enfermés. Avant le Covid, 25 000 personnes étaient chaque année enfermées dans un des CRA de métropole et potentiellement deux fois plus d'expulsions. Cette loi s'inscrit dans un racisme d'État s'exprimant par des discours et des mesures sécuritaires ultra répressives de criminalisation des personnes sans papier, dont les CRA sont la forme la plus aboutie. Au-delà des débats législatifs, s'opposer, retarder et bloquer les constructions de CRA sont des moyens pratiques d'empêcher l'application de la loi portée par Darmanin, à bas les CRA, à bas les frontières. Donc cette manif, elle va partir de Porte Dorée ce samedi à 14h. Donc on espère qu'il y aura du monde. Il y a d'autres manifs qui sont appelés aussi contre la loi Darmanin et contre les CRA le même jour ailleurs. Les rendez-vous, c'est à Lyon à 14h, place Gabriel-Péri, à Marseille, 14h, Bougainville jusqu'à Porte d'Aix, et à Nantes, 17h, place Bouffay, contre le projet de construction, parce qu'ils sont en train de commencer à annoncer qu'a priori, il y aurait également un CRA qui va être construit près de Nantes. Voilà, j'imagine qu'il y a sûrement d'autres manifs ailleurs appelés samedi, mais qu'on n'a pas forcément trouvé. Donc, voilà, bah, on va faire une petite pause et écouter Bâtarde de Billy Breloc.
Capote, branche le spot, je suis une bâtarde. Le seum de la fête, instrument à trois têtes, tirchemo, ma z, je suis une bâtarde. J'ai tout emprunté, même ma vie d'article. Et je suis tourmenté quand je jouis sa gicle. Aux yeux de ce pisseux et pompe qui préfère ne rester contre. Parce que leur milieu c'est le mieux, mais comme tu veux, crevard, reste entre toi. Tu prends le toit dans le noir et après lèche tes doigts. Les consanguins, j'en fais de la contrefaçon. Donc si tu kennes que tes cousins t'arrassent, passe, elles trépassent vu que je fais sanguin. Je suis né d'un tas de cendres, d'un sanglot florissant, d'un sang froid, d'un sang d'encre. Je ne suis pur qu'à 3%, je suis une bâtarde d'avant-garde, mais déjà ringarde. Je suis une bâtarde jusqu'au fond du myocarde. Une putain de femme à barbe, une timide plutôt bavarde. Je suis une bâtarde. Si je fais exprès, c'est souvent par mégarde. Hey, si jamais tu veux qu'on se rencarde, et bah gère. Je me balade avec les chiens du Rimac qui ont leur code et leur couille dans l'estomac. Qu'on ne caresse qu'à coups de claque et qui lave et qui se lave. Et se miroite dans les flaques. Arrête, arrête de te prendre pour le fils à ton pack à Malou. Est-ce qu'on t'écartelerait en quatre pour ton cours où tu connais pas Manco Capac? Et à peine le Pérou commence par passer un de ces quatre au Black Park ou Foulou. Je suis trempé dans trop d'histoires, j'ai traîné à trop de comptoirs. C'est trop tard, je suis précaire quand je fais la tournée des soirs. Alors je me tape mes chills et je baise avec le vent. Vu que je suis rap des villes, autant je serai chatte des champs, mes chamans détergentes. Si tu chantes, tu m'enchantes, mais si tu me plantes, tu prends la tangente. Je suis pas de souche à la souche, j'enchaîne couche. J'éclabousse, je rappe pas pour ceux qui se touchent. Et quand j'accouche, c'est par la bouche. Alors j'ai tout sali et tout retourné. Mais on m'a mal poli et depuis, j'ai comme une envie de me venger contre qui je vais trouver. Donc tant pis si je t'ai visé, mais mon ami ici faut pas traîner. Je suis pas à l'abri de ma propre garde. Un cauchemar même si je me farde de planter comme une écharde. Je suis une bâtarde et je tape des barres de chagrin. Quand je me couche tard le matin, je me cale avec les miens. Ça déhexe sur tous les terrains. Je suis la fille de deux siècles. Y'a des jours ils se la check. C'est l'âge de 3D qui passe manger un cake. Puis le lendemain ça se renvoie à l'échec. S'introspecte, se controspecte, se sur des decks et se touche et rec. Alors on sait plus vraiment. Est-ce que c'est mieux avant, est-ce que c'est mieux maintenant, ou est-ce qu'il faut encore du temps? Et c'est quand, et c'est quand le présent? Et c'est quand qu'on rentre dedans? Et c'est quand qu'on range les dents? Bon augure et mauvais présage. Batifolais dans une grange et m'engendrai sur le bas. J'ai grandi et depuis je m'en dégage. Mais je reste le fruit de leurs échanges et le bruit de leurs ébats. Ça fait sale cabote, coup de capote, branche le spot. Je suis une bâtarde, je suis une bâtarde. Le seum de la la fête, un strum à trois têtes, Hirschem, oh ma zette, je suis une bâtarde.
Vous êtes bien de retour sur Carapatage. Du coup, si vous voulez nous appeler, je redonne le numéro. C'est le 01 43 71 89 40. Et par mail, carapatage@riseup.net. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce soir, on va parler du fichage ADN. Donc, le fichage ADN et en particulier du fichier FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques, qui a été créé en 1998 et qui est un peu le gros dispositif qui sert, le fichier dans lequel il y a les empreintes génétiques. Et donc on va parler de comment est-ce que ce FNAEG il est apparu, qu'est-ce que c'est que l'ADN, comment marche ce fichier, comment les flics font pour prendre l'ADN d'une personne, qu'est-ce qu'on risque en cas de refus de prélèvement, et quelles sont l'utilisation judiciaire qui peut être faite de l'ADN, des prélèvements ADN faits. Voilà, et on va aussi essayer un peu de parler des résistances qui peuvent exister. Donc voilà pour le programme de notre thématique. Et on va commencer par rappeler déjà l'ADN, c'est quoi ? Parce qu'on en parle beaucoup, mais déjà, qu'est-ce que c'est concrètement ?
Alors, je vais essayer d'être claire, hein, mais c'est un peu technique. Donc, l'ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique. C'est une molécule qui est présente dans chacune de nos cellules et qui porte l'information génétique. Donc, ça veut dire concrètement qu'elle est identique dans toutes les molécules d'ADN, dans toutes les cellules d'un individu sont identiques et qu'elles sont propres à cet individu, sauf pour les personnes qui sont des vraies jumelles. Donc, cet ADN, il est formé d'une succession de nucléotides. C'est comme ça que ça s'appelle. Il en existe quatre différents. On résume par les lettres A, C, T et G. Et du coup, selon comment ces nucléotides, du coup, c'est juste des bases nucléaires. Hein, ça, pas d'autres. Enfin, je vais pas expliquer de quoi c'est composé, mais voilà, c'est ça qui forme l'ADN par en s'alternant. Et du coup, ces alternances, ça va créer des séquences. Donc, par exemple, A, T, C, C, G. Voilà, ce serait une séquence ADN. Ces séquences, elles peuvent être codantes. Dans ce cas, on appelle ça un gène. Et donc, ça détermine des caractères physiques, comme par exemple la couleur des yeux, etc. Et il y a aussi des séquences qui sont pas codantes. Donc, on ne sait pas exactement à quoi ça sert. Mais en tout cas, c'est celles qui sont utilisées par les flics pour effectuer le profilage génétique. Donc, ils se servent de celles-là parce qu'elles sont, elles présentent plus de variations entre les individus. Et aussi parce que ils n'ont pas le droit d'utiliser les autres, à part pour celles qui déterminent, qui permettent de déterminer le sexe. Et du coup, les autres, plutôt, ils n'ont pas le droit de s'en servir parce que il pourrait y avoir des petites dérives du type eugéniste, ce genre de choses. Donc, pour obtenir un profil génétique, ils regardent à différents endroits de la molécule où il y a des séquences qui sont appelées STR. Ça veut dire short tandem repeat, mais bon, c'est pas très intéressant. En tout cas, ces séquences, elles sont composées d'une répétition d'un même motif, par exemple AT, AT, AT. Et tout le monde a ces mêmes répétitions aux mêmes endroits de la molécule, sauf que le nombre de répétitions, il va varier d'un individu à l'autre. Du coup, ils estiment qu'en étudiant un nombre suffisant de STR, du coup, en France, ils travaillent en général sur 15 STR, donc 15 endroits différents de la molécule. En étudiant ces 15 endroits différents, ils établissent un profil qui serait unique. En tout cas, qu'ils considèrent suffisamment unique pour être utilisé en justice. L'ADN, où est-ce qu'on le trouve ? Du coup, les classiques, c'est le sang, la salive, où là, il y a besoin vraiment de très peu, une micro-goutte peut leur suffire établir un profil. C'est aussi sur la peau, là aussi il y a besoin de très peu. Ça se trouve dans les os et les dents, donc là c'est plutôt sur les cadavres qui vont prélever ce genre d'endroit. Dans l'urine, il n'y en a presque pas, il est très dégradé. Et dans les cheveux, c'est pareil, il n'y en a pas beaucoup à part à la racine, mais du coup dans Tout le reste du cheveu, c'est surtout de l'ADN mitochondrial qu'on trouve. Du coup, c'est un autre. Du coup, il y a deux ADN différents. Il y a l'ADN nucléaire qui se trouve dans le noyau des cellules et le mitochondrial qui se trouve dans les mitochondries qui sont une autre partie des cellules. Et du coup, ils utilisent plutôt l'ADN nucléaire, mais parfois ils utilisent le mitochondrial. Mais du coup, le mitochondrial, pour le coup, il n'est pas du tout unique à l'individu. Il est déjà identique chez les personnes qui sont issues de la même lignée maternelle, mais aussi entre des individus qui n'ont rien à voir entre eux, juste par le hasard de la vie. Donc, c'est cet ADN, donc il peut le trouver dans ces endroits que j'ai dit, mais aussi par, sur des objets qui ont été en contact avec des traces d'ADN et qui ont été contaminées, ou des objets qui ont été en contact avec des objets qui ont été en contact et qui ont été contaminés donc par de l'ADN. Donc une fois qu'ils ont récolté cet ADN, pour comparer les 15 STR dont je parlais tout à l'heure, ils vont purifier l'ADN, c'est-à-dire nettoyer pour qu'il n'y ait plus que de l'ADN, et ensuite ils le copient plein de fois, genre un million de fois, pour pouvoir comparer tout ça. Voilà, en gros, j'espère que vous avez compris quelque chose.
C'était super clair.
Mais du coup, ça veut dire... Enfin, je peux te poser une... Ça veut dire que, du coup, quand ils prélèvent l'ADN d'une personne et qu'ils le mettent, s'ils prennent que les parties qui sont non codantes, mises à part pour le sexe, ça veut dire que jusqu'à présent, en tout cas, enfin jusqu'à aujourd'hui, via un prélèvement ADN, s'ils ne le comparent pas à un autre ADN qu'ils auraient dans leur fichier, ils peuvent déterminer si la personne dont provient cet ADN-là est de sexe masculin ou féminin, mais ils ne sont pas censés chercher d'autres informations, type la couleur des yeux, la couleur de la peau, parce que ça aussi c'est présent comme information dans l'ADN, mais du coup ils n'ont pas le droit de chercher ces gènes-là dans les traces qu'ils récupèrent sur une scène.
C'est ça, je disais dérive eugénisme, mais pas que, ça ferait que par exemple ils pourraient, si ils avaient le droit de tout étudier, ils pourraient établir des portraits robots à partir de l'ADN, dire ah bah la personne... à telle couleur de peau, effectivement, ce qui est pour le moment interdit pour des raisons de défense des droits de l'homme, parce que ce serait possiblement stigmatisant ou ce genre de choses.
Mais du coup, c'est aussi un risque qu'un jour, ça soit plus interdit. Et on pourrait... Enfin, c'est aussi pas très difficile d'imaginer, parce que justement, là, ce qu'on va voir dans l'historique maintenant, c'est à quel point... Au tout début, quand c'est apparu, le fichage ADN, c'était restreint à quelques personnes, quelques cas très particuliers. C'était censé être une exception, alors qu'aujourd'hui, c'est complètement généralisé, le fichage ADN. C'est devenu quasi la nouvelle norme lors des gardes à vue, alors qu'à la base, c'était censé être que les personnes condamnées et que dans certains cas. Et du coup, on peut tout à fait imaginer que... sous le coup de l'émotion, comme à chaque fois c'est l'émotion qui les fait élargir le fichage, ils décident que finalement c'est quand même pratique de pouvoir élaborer un portrait robot à partir d'une trace, et on n'est pas à l'abri que ça change, quoi. Pour reprendre l'historique, donc l'ADN, ces fichiers, c'est dans ce que je disais tout à l'heure, c'est dans le FNAEG, donc le fichier national des empreintes génétiques, qui a été créé en 1998. L'affaire qui a la base, qui a servi aux politiques à s'appuyer dessus pour justifier la création de ce FNAEG, c'est l'affaire Guy Georges. Donc le 26 mars 1998, il y a Guy Georges, qui est un violeur et tueur en série, qui est impliqué dans 20 affaires criminelles, et dont 7 meurtres, qui est identifié et arrêté grâce à son ADN. Donc c'est la première fois qu'on a en France une arrestation, et en plus aussi médiatisée de quelqu'un grâce à l'ADN. Et du coup, 3 mois plus tard, le 17 juin 1998, il y a le gouvernement de Lionel Jospin qui met en place le prélèvement ADN pour les auteurs de crimes et délits sexuels commis sur des mineurs de moins de 15 ans, et qui crée ce fichier pour stocker ces profils ADN. Donc, ce fichier-là, il est construit dans un contexte émotionnel très fort sur fond de faits divers. Et par la suite, c'est aussi des choses qui vont avoir une forte répercussion émotionnelle dans l'opinion publique, qui vont aussi appuyer le fait de petit à petit ce fichier s'élargisse. Le FNAEG, il va être élargi. Donc, au début, on peut prélever, c'est ce que je disais, en 98, uniquement sur les auteurs de crimes et délits sexuels commis sur des mineurs de moins de 15 ans, donc uniquement condamnés. Ou là, on peut demander un prélèvement d'ADN pour qu'il soit fiché par la suite. En 2001, le 15 novembre, il y a une nouvelle loi. Donc, en novembre 2001, on est 2 mois après les attentats de septembre 2001. Donc, c'est la loi de sécurité quotidienne. Et c'est de nouveau le gouvernement de Jospin qui élargit le fichage ADN donc à tout ce qui touche les atteintes graves et volontaires à la vie de la personne, crimes contre l'humanité, homicides volontaires, actes de torture, proxénétisme, ou aussi les atteintes aux biens accompagnées de violences, incendies, destructions. Et c'est aussi la première fois qu'est prévue dans la loi une sanction pour le refus de prélèvement, donc qui est de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende à l'époque. Donc c'est un premier élargissement à d'autres types de condamnations, plus uniquement sexuelles. Après, en 2003, il y a de nouveau une nouvelle loi de sécurité intérieure, par Raffarin cette fois-ci, qui élargit considérablement le fichage ADN à 137 infractions. Donc c'est la quasi-totalité des crimes et délits d'atteinte aux personnes et aux biens, même les vols, les tags. Il y a seuls les délits financiers qui sont pas concernés par ce fichage. Et c'est aussi à partir de cette loi, donc en 2003, qu'il est possible d'effectuer un prélèvement ADN sur une personne qui est suspectée, mais pas encore condamnée, alors que jusqu'à présent, c'était uniquement après jugement que pouvait y avoir un prélèvement ADN. Donc c'était plus une mesure qui était considérée comme prévention de la récidive, alors que là, ça devient une mesure préventive d'avoir un fichier avec les empreintes génétiques avant qu'une personne passe à l'acte. Voilà. Après, la personne, on reviendra un peu dessus tout à l'heure, si elle est innocentée, en théorie, elle peut demander à ce que son ADN ne soit pas au FNAEG, une fois que ça a servi de comparaison, mais retirer son ADN du FNAEG, c'est pas forcément très respecté et très simple. La loi, elle renforce aussi ce qu'on risque en cas de refus de prélèvement, en le portant à 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Et après, en 2004, il y a une nouvelle loi, la loi Perpen 2, qui systématise les prélèvements pour les condamnés à plus de 10 ans de prison. Donc là, quel que soit le motif de condamnation. Donc voilà. En tout cas, cette historique, ce qui est important, c'est que c'est sur une affaire très précise qui a fait beaucoup de bruit, qui a permis de créer ce fichier et qu'après, petit à petit, il s'est élargi. Et ce qui était présenté à la base comme étant l'exception, ça s'est petit à petit élargi à tout le reste. Donc le FNAEG, ce fichier est composé de 2 parties. Il y a une partie où il y a les profils. Donc, ce qu'ils appellent les profils, c'est quand ils prélèvent sur une personne en particulier, donc ils connaissent l'identité. Donc, c'est l'ADN, il est versé dans le fichier, il est rattaché du coup au nom, prénom, à l'identité de la personne. Et il y a une partie où c'est des traces. Donc, les traces, c'est quand ils vont prélever sur une scène de l'ADN sans savoir au moment du prélèvement à qui il appartient. Et quand ils versent du coup soit un nouveau profil ou soit une nouvelle trace dans le fichier, il y a plusieurs comparaisons possibles. Généralement, ça va être une trace qu'ils vont verser pour voir est-ce que la personne qui a laissé son ADN sur une scène est déjà fichée au FNAEG et que c'est possible de retrouver son identité. Ça peut être aussi dans l'autre sens, du coup, quelqu'un qui est suspecté, on verse son ADN au FNAEG pour le comparer à une trace et voir est-ce que la personne, on a déjà retrouvé son ADN sur une scène. Après, ça peut être comparé profil-profil. Donc là, c'est plus les cas où il y a quelqu'un en garde à vue, où il y a un doute sur son identité et ils veulent vérifier qu'il n'est pas en train de donner une fausse identité en garde à vue et vérifier si la personne elle est pas connue, cet ADN-là n'est pas connu au FNAEG sous un autre nom. Et enfin, des comparaisons trace-trace. Donc là, c'est quand il récupère de l'ADN sur une scène et qu'il vérifie au FNAEG est-ce que cet ADN-là a déjà été retrouvé. Par exemple, s'il y a une maison qui est cambriolée, qui trouve de l'ADN, est-ce que dans d'autres cambriolages, il y a déjà cet ADN-là qui a été retrouvé sur d'autres scènes de cambriolage. Voilà pour le FNAEG.
Juste quelques petites infos en plus, c'est que du coup en 2020 il y avait près de 5 millions d'individus qui figuraient au FNAEG, ce qui représente 7% de la population française. Et il y avait aussi environ 700 000 ou 800 000 traces stockées. Et je voulais rajouter aussi les durées de conservation des profils. J'ai pas noté pour les traces d'ailleurs, je ne sais pas combien de temps elles sont conservées, mais en tout cas les profils, du coup les personnes, les individus qui se font ficher au FNAEG, les durées de conservation c'est de 25 à 40 ans pour les personnes qui sont définitivement condamnées, les personnes décédées, les personnes disparues, ou pour les personnes qui n'ont pas été condamnées parce qu'elles ont été considérées comme... irresponsables pénalement pour raison de troubles mentaux. Elles sont, c'est pareil, c'est comme si elles étaient condamnées quoi, sur la conservation de leur ADN. Et donc c'est de 25 à 40 ans en fonction de la gravité des faits. Je ne vais pas détailler, d'ailleurs de toute façon il semblerait qu'ils ne respectent pas comment ils sont censés les conserver. Et du coup ça c'est pour les majeurs et c'est de 15 à 25 ans pour les personnes qui sont fichées quand elles sont mineures. Et pour les personnes mises en cause, du coup pas condamnées, c'est de 15 à 25 ans pour les majeurs et de 10 à 15 ans pour les mineurs. Donc des durées... et encore ça a baissé, du coup je sais pas de quand ça date, mais avant c'était plus 40 ans pour tous les condamnés et 25 ans pour tous les mises en cause, je crois. Enfin bon, bref, mais du coup, vu qu'il y a régulièrement la Cour européenne des droits de l'homme qui tape sur les doigts de la France concernant sa gestion du FNAEG, qui vise à un fichage généralisé de la population française plutôt que ce pour quoi il est destiné à la base, c'est-à-dire l'identification des auteurs d'infractions, pour reprendre les termes de la loi, hein, pardon, excusez-moi. voilà. Du coup, ça fait qu'ils ont baissé... les durées de conservation, mais qui sont toujours assez démesurées. Quoi.
Et d'ailleurs, ce fichage généralisé, comme tu dis, y a certains politiciens qui ne s'en cachent pas, qui disent clairement, qu'ont clairement dit dans la presse, notamment en 2005, sous Sarkozy, il y avait des politiciens de droite qui disaient que l'idée, c'était d'obtenir un fichage massif dans l'idée de trouver le gène de la... que ça serait possible de trouver le gène de la délinquance. C'était un peu le grand rêve. Et avec cette idée d'une société qu'on pourrait protéger des déviants en les identifiant dès le plus jeune âge via leur gène. Et voilà, c'est toute l'idée, mais qui est là dans plein de... Enfin, tous les dispositifs de contrôle, de fichage, c'est pour l'ADN, mais ça pourrait être pour le reste aussi, de réussir à obtenir un risque zéro, que si la personne n'a rien à se reprocher, en quoi ça peut bien l'embêter d'être dans différents fichiers, que son ADN soit dans le FNAEG, c'est pas grave si elle a rien à se reprocher, que ceux qui seraient contre, ça serait ceux... qui pourraient avoir peur qu'on leur reproche quelque chose un jour, grâce au FNAEG. Et voilà, c'est le rêve de... Ouais. Mais là, avec des rêves eugénistes en plus, derrière l'ADN, que ça serait possible d'identifier les gènes et donc de tuer la délinquance dans l'œuf, quoi.
Est-ce qu'il y a un gène gros con de droite pour identifier en
oui,
maternelle?
C'est la 40e allèle quand tu pars vers la gauche. Moi, je me dis de rajouter un petit truc, parce que quand on regarde un peu l'historique en France, on remonte jusqu'à 98, on se dit, ah, c'est il n'y a pas si longtemps. Mais en fait, pour se dire que le truc, il a été découvert en 85 ou 86, quelque chose comme ça, c'est vraiment tout récent, ce truc-là de l'empreinte génétique et de la découverte de l'empreinte génétique. Et que dès que il y a un type qui l'a trouvé au Royaume-Uni, et dès qu'il l'a trouvé, c'était du pain béni pour les flics. Et là-bas, très tôt, ils ont décidé de ficher tout le monde, enfin, tout le monde, tous les gens qui se retrouvaient à un moment ou un autre près de la justice, coupables ou innocents. Et de façon très assumée, l'idée, très tôt, c'était d'avoir un fichage généralisé. Et je me disais aussi le fait que ce soit récent, enfin quand on regarde un peu les trucs, les chiffres du FNAEG, c'est exponentiel quoi, ça va hyper vite, ça double chaque année, ça double les chiffres qu'il y a à l'intérieur et ils comptent beaucoup dessus, j'ai l'impression. Mais c'est aussi des difficultés technologiques qu'il faut sur ce que vous disiez tout à l'heure de pourquoi pas utiliser les gènes et plutôt les, je sais plus comment t'appelais ça.
Les STR non codants.
Les STR, c'est qu'il y a aussi un truc de place que ça prend. Enfin, c'est aussi des choix un peu stratégiques sur, pour que ce soit moins coûteux et le plus efficace possible. Et que c'est pas juste une question éthique, mais aussi une question de c'est moins coûteux et plus efficace avec les moyens qu'ils ont actuellement. Juste pour,
Ça ferait trop de trucs à stocker et qu'ils ont pas.
Ouais.
Que ça prendrait trop de place.
Bah, après toutes ces informations, pour digérer un petit peu, on va écouter Parun de Maternos de Miss Bolivia.
Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la jota. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos, los humanos, locos. Mañana me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos, los humanos locos. Yoga.
On est de retour sur Carapatage pour parler ce soir du fichage ADN. Donc on vient un peu d'expliquer avant la musique l'ADN, qu'est-ce que c'était, le FNAEG, comment il était apparu et comment il fonctionnait. Et on s'est aussi un peu posé la question de dans quel cas les flics peuvent prendre ton ADN et qu'est-ce qu'on risque en cas de refus. Et c'est des recherches qui n'ont pas été si simples que ça à faire.
Ah oui, le code pénal, pour ceux qui ne sont jamais allés le voir, est vraiment assez incompréhensible et flou, mais je pense aussi volontairement flou, pour qu'ils puissent faire un petit peu ce qu'ils veulent. Mais donc, comme on l'a dit, l'ADN, il peut être pris pour une liste de délits et de crimes qui est donc finie, quoi. C'est pas tous les délits, enfin c'est tous les crimes, il me semble, pas tous les délits, mais bon... quasiment tous finalement je sais pas, pour les moins impressionnants, il y a par exemple vol, extorsion, escroquerie, destruction, dégradation, détérioration, menace d'atteinte aux biens, enfin voilà, des choses où vraiment, enfin, on est très loin du serial killer dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, pour ces délits et crimes-là, quand on est... Enfin, du coup, j'ai pas du tout fait toute la liste, hein, comme on vous a dit. C'est presque tout ce qu'il y a dans le code pénal. C'était juste pour donner une idée. Mais du coup, quand on est... Soit quand on est en garde à vue, soit quand on est mis en examen, ou alors quand on est condamné ou qu'on a bénéficié d'une irresponsabilité pénale pour troubles mentaux pour un de ces délits et crimes dans la liste. Donc, comment ça se passe, les prises d'ADN? Globalement, en général, c'est un coton-tige qui est frotté à l'intérieur de la joue, ou alors les flics qui demandent de cracher sur un espèce de buvard. Quand on refuse ce prélèvement, c'est un délit. Comme Alix disait tout à l'heure, c'est punissable au maximum d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. Mais pour les personnes qui ont été condamnées pour crime, c'est plus gravement puni, et du coup c'est maximum 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Bon, c'est le double donc. Il y a aussi une peine qui est prévue pour celles et ceux qui tenteraient de substituer à leur propre ADN l'ADN de quelqu'un d'autre, quoi. Et donc ça, c'est puni plus gravement encore, c'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Donc c'est puni. Malgré ça, il y a quand même plein de bonnes raisons de refuser de donner son ADN. En plus, on a vu plein de fois pendant des procès que ça tombait, que les gens n'étaient pas condamnés parce qu'il y avait pour le refus d'ADN suite à des vices de procédure, parce que du coup, ils ont quand même des protocoles à suivre pour faire ces prises et qu'ils les respectent pas toujours, et que des fois... ça passe devant un juge de dire que ça n'a pas été respecté. Et aussi, souvent les peines quand même en France, de ce qu'on a vu, sont pas très hautes, parce que justement, ce que j'expliquais tout à l'heure, ils sont pas non plus hyper à l'aise. Tout le monde n'est pas très d'accord sur la question de l'ADN, avec la Cour européenne des droits de l'homme qui fait régulièrement des rappels à l'ordre. Et du coup, les juges mettent quand même en général pas des peines méga vénères pour des refus ADN. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que même si on refuse, ils ont le droit de prendre par la ruse. Donc, c'est arrivé plein de fois qu'ils proposent à des gens des clopes en garde à vue, ou qu'ils chopent les couverts et les gobelets, des choses comme ça. Parce que c'est précisé dans le code pénal que s'ils ne peuvent pas procéder au prélèvement biologique, ils peuvent identifier l'empreinte génétique à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé. Et alors, ce n'est pas précisé s'il faut le consentement de l'intéressé ou pas pour cette manœuvre. Et en plus de ça, de ces prises par la ruse, il y a eu plusieurs témoignages ces derniers temps de personnes qui se font prendre l'ADN de force, du coup cette fois carrément avec le coton-tige dans la bouche, sous menace de taser ou de baffe dans la gueule. Et ça, ils le font en même temps qu'ils prennent les empreintes, parce que comme les empreintes digitales et palmaires, dont on a parlé dans une précédente émission sur le fichage, où maintenant, dans certaines conditions, ils ont le droit de prendre ces empreintes de force. Et du coup, il y a eu plein de témoignages, enfin plein, en tout cas quelques-uns, de témoignages récents où des personnes qui se font prendre les empreintes de force, les flics en profitent par la même occasion pour leur foutre le coton-tige dans la bouche. Même si, pour le coup, c'est pas du tout prévu par la loi. Du coup, on ne sait pas trop ce qu'ils foutent de cet ADN. Si juste s'il enregistre dans le fichier ou alors si seulement il le compare avec les traces et profils déjà présents au FNAG. Parce que du coup, l'ADN, il peut être pris pour deux raisons. Il peut être soit enregistré, fiché, dans le fichier, ou alors il peut être pris aux seules fins de comparaison avec du coup les traces et les profils déjà qui sont déjà enregistrés. Et normalement, pour qu'il puisse être enregistré, cet ADN, il faut qu'il existe contre la personne. Donc si elle n'est pas condamnée, évidemment, dans ce cas, ils ont le droit d'enregistrer d'office. Si la personne est seulement en garde à vue ou mise en examen, il faut qu'il existe, je cite, « des indices graves ou concordants contre la personne ». Sachant que quand on est en garde à vue, on peut être mis en garde à vue seulement parce qu'il existe des raisons possibles de plausibles de soupçonner qu'on a commis une infraction, ce qui est à un niveau de suspicion moindre que les indices graves ou concordants. Et normalement, s'il y a seulement des raisons possibles, plausibles, pardon, de soupçonner qu'on a commis un des délits prévus dans la liste, ils n'ont pas le droit d'enregistrer l'ADN, mais seulement de le comparer, de faire un rapprochement dans le FNAEG, seulement pour comparer et pas pour ficher. Sauf que du coup, il y a écrit ça dans la loi, mais du coup, quand on est en garde à vue, entre raisons plausibles de soupçonner et indices graves ou concordants, on comprend pas trop quand même la nuance, et a priori c'est suffisamment flou pour qu'ils fichent tout le monde quand ils arrivent à choper de l'ADN. Mais ce qui n'empêche pas par ailleurs de demander un effacement qui normalement est de droit si on a été relâché sans suite ou qu'on a été relaxé des faits principaux dans un procès qui aurait suivi. Et du coup, normalement, dans ce cas-là, si on demande l'effacement, on est censé l'obtenir sans avoir besoin de se justifier outre mesure. Sauf que, encore une fois, dans les faits, c'est pas ce qui se passe et c'est un des trucs aussi que la Cour européenne des droits de l'homme reproche à la France, c'est qu'ils respectent pas leur truc d'effacement et qu'en fait, c'est compliqué de les obtenir. Et c'est aussi possible, normalement, d'obtenir, même si on a été condamné, d'obtenir un effacement anticipé. Et donc ça, par contre, c'est pas de droit, il faut se justifier. En tout cas, ces demandes, pour info, même si ça mène peut-être pas à grand-chose, mais ça vaut le coup d'essayer, ça se fait dans un premier temps auprès du procureur. Et si le procureur refuse, il y a un appel, un recours possible auprès de la chambre de l'instruction. Le dernier truc dont je voulais parler, c'est que quand on a été condamné, donc, pour un des délits ou crimes qui sont dans la fameuse liste, on peut être reconvoqué par la suite par les flics pour donner son ADN, vu qu'on fait partie des personnes éligibles à cette fameuse prise ADN, et pour cette fois être fiché. Donc c'est soit une convocation, soit on peut être visité, entre guillemets, en prison pour les personnes qui sont incarcérées. Et il y a des personnes aussi qui se font arrêter, enfin du coup, quand on ne se rend pas à une convocation, par exemple, on peut être inscrit au fichier des personnes recherchées et se faire arrêter par les flics lors d'un contrôle fortuit, que ce soit dans la rue ou dans un aéroport, dans des transports, et que les flics demandent l'ADN à ce moment-là. Du coup, ça, même si on a déjà été condamné pour un refus ADN pour la même infraction, genre si ils nous avaient demandé l'ADN en garde à vue, qu'on avait refusé, qu'on a été condamné pour ça, ça n'empêche pas que si on a été condamné aussi pour les faits principaux qui rentrent dans la fameuse liste, qu'ils puissent revenir nous demander l'ADN et si on refuse, nous repoursuivre à nouveau pour ce deuxième refus pour les mêmes faits initiaux. Quand il s'agit de condamnation à au moins 10 ans de prison, là, c'est pas t'as le droit de refuser. Ils prennent par la force, c'est dans la loi pour toutes les personnes condamnées au moins 10 ans de prison. Pour ces prises post-condamnation, ces prises d'ADN post-condamnation, ils ont un délai maximum d'un an pour le faire après la fin de la peine. Du coup, ça veut dire que si on prend une amende et qu'on la paye direct, par exemple, ils auraient un an après qu'on ait payé pour venir faire cette prise ADN, pour nous convoquer. Mais par contre, si on prend un sursis, quel qu'il soit, les sursis, ça court, si je dis pas de bêtises, ça court sur 5 ans. Du coup, ça ferait qu'ils auraient 6 ans, par exemple. Donc 5 ans plus le 1 an de délai pour venir faire ce prélèvement ADN, en tout cas le demander. En tout cas, voilà, ça peut être intéressant. Il y a des gens qui sont sortis comme ça, de juste pas se rendre aux convocations et que ça a marché pour des personnes. Voilà, moi, ce que j'avais à dire sur la partie juridique. J'espère que c'était pas trop imbuvable.
Et puis, aussi, je pense que le truc, c'est que ils affichent, du coup, dans la loi que c'est relativement facile, qu'en gros, la personne... C'est un peu la même chose que je disais tout à l'heure sur si vous avez rien à vous reprocher, donnez votre ADN. Dans le sens où, mais vous inquiétez pas, si jamais vous n'êtes pas condamné ou pas poursuivi, de toute façon, votre ADN, vous pourrez demander à l'enlever du fichier. Alors que, en réalité, dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué, une fois que l'ADN il a été prélevé, de demander à ce qu'il soit, radié du fichier. Et on se disait aussi tout à l'heure, en préparant l'émission, on se posait un peu la question de tous les gens qui sortaient avec des rappels à la loi. Parce que du coup, dans le rappel à la loi, le procureur, il se laisse un temps pour décider... Enfin, ce qui est écrit sur le rappel à la loi, c'est qu'il se laisse un temps pour décider si oui ou non il va mener une instruction, enfin, s'il va décider de poursuivre la personne ou pas pour la raison pour laquelle elle a été en garde à vue, même si dans les faits... Donc les gens, ils sortent avec des rappels à la loi. Le proc, il fait... Généralement, il fait pas...
Derrière,
ouais,
il réouvre jamais le dossier.
Oui, il réouvre jamais le dossier. Mais ça donne aussi un peu un prétexte au proc pour refuser d'enlever le prélèvement ADN du fichier parce que il a encore le temps de se décider pour réouvrir le dossier, même si c'est très bien qu'il va pas le faire. Et du coup, ça donne aussi un prétexte pour garder l'ADN dans le fichier, quoi. Donc, quand ils disent que c'est possible de l'enlever, c'est théoriquement possible. On va écouter peut-être une autre petite musique. Contradiction de Fanny Poli.
Mon livre est à la page où je doute et souvent j'hésite. Je veux y arriver dans la musique, mais j'ai trop peur de me braquer et détester la critique. Je veux m'évader sous les tropiques, mais j'aime trop ce que j'ai ici pour que je le quitte. Je veux de la monnaie, mais j'aime pas son odeur. Je veux pas la Ferrari, moi juste son moteur. J'aime mon pays, ma ville, ma terre et ma planète. Pourtant, si tu voyais jour après jour tout ce que j'y jette, j'aime pas qu'on me regarde, mais je rappe. Je veux pas que tout le monde écoute. Je traîne avec des meufs qui râlent parce qu'elles aiment pas leur coupe. J'aime mon département, mais je ne sais pas comment j'ai pu y rester quand je vois le prix d'un appartement. J'aime pas les drogues, non, pourtant j'en consomme. J'aime pas les psychologues, mais vraiment faudrait que je consulte. Un côté blanc, l'autre côté noir. Comportement contradictoire, c'est vrai. Des fois j'ai du mal à me décider, mais souvent quand un truc marche, y'en a un autre qui foire. Opposition obligatoire. J'aime trop l'anonymat, mais je veux connaître la gloire. Dans chaque malheur, y'a du bon à voir. Puis si tout était parfait, je rapperais pas ce soir. Un jour tu veux un truc, le lendemain tu veux l'inverse. Et moi un jour je ferai un tube. En attendant, j'ai des complexes. Fuis-moi et je te kiffe. Suis-moi et je te quitte. Fuis-moi et je te kiffe. Suis-moi et je te quitte. Entre joie de vivre et peur de mourir. Envie de dire tout ce que j'ai sur le cœur avant de partir, mais pas envie de blesser. Je frappe pour pas encaisser. Je rappe pour des idées et un message qui veulent pas passer. Je râle, y'a ceux qui pleurent quand tout va bien, ceux qui sourient quand tout va mal. Une pierre qui vit pour mourir. Au final, la vie est pleine de contradictions. Commence par nous-mêmes. Un jour tu crois pas en Dieu, lendemain tu veux sa bénédiction. Moi je dis que j'ai pas le temps, c'est juste que j'ai la flemme. Je remets tout à demain comme si je connaissais pas le dicton. L'épaule est jetée, commence toujours par une flexion. Du mal à dire je t'aime égale besoin d'affection. On cherche pas de réponse. Pourtant, c'est pas les questions qui manquent. À chaque choix, ses conséquences et contradictions. À chaque choix, ses conséquences et contradictions. Contradictions. Un jour tu veux un truc, le lendemain tu veux l'inverse. Et moi un jour je ferai un tube. En attendant, j'ai des complexes. Fuis-moi et je te kiffe.
Suis-moi et je te quitte. Fuis-moi et je te kiffe. Suis-moi et je te quitte. Côté blanc, l'autre côté noir. Comportement contradictoire, c'est vrai. Des fois j'ai du mal à me décider, mais souvent quand un truc marche, y'en a un autre qui foire. Opposition obligatoire. J'aime trop l'anonymat, mais je veux connaître la gloire. Dans chaque malheur, y'a du bon à voir. Puis si tout était parfait, ben je rapperais pas ce soir.
C'était Contradiction de Fanny Poli. Et on continue sur l'ADN. Donc là, on va un peu parler maintenant de l'utilisation judiciaire de l'ADN et en quoi aujourd'hui c'est considéré par la justice comme la preuve parfaite. Enfin, officiellement, non, mais de fait, ce qu'on voit dans les procès, c'est que c'est beaucoup considéré par les juges comme une preuve infaillible.
Ah oui, c'est censé être au même titre que d'autres preuves ou quoi. Mais le fait que ce soit hyper scientifique, ça fait que ça lui donne un caractère un peu sacré et qui est plus dur à contredire, quoi. Et aussi, c'est beaucoup utilisé pour pousser les gens à avouer, par exemple. Justement, avec ce truc, en fait, si ton ADN, il est trouvé quelque part, c'est mort, tu pourras pas t'en défendre. Et du coup, ils s'en servent beaucoup pour faire avouer les gens. Alors qu'en fait, c'est complètement faux que c'est une preuve incontestable. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'ADN, ça se balade de ouf. Du coup, ça fait que c'est chiant pour pas en mettre partout. Mais ça, on en parlera plus tout à l'heure. Mais ça fait aussi que s'il y a notre ADN quelque part, ça ne veut pas forcément dire qu'on a été quelque part ou qu'on a touché un truc. Et vu que c'est ce que je disais au tout début, c'est que c'est volatile et que d'objet en objet ou de personne en personne, l'ADN, il se transmet et il contamine, quoi. Et en plus de ça, leur protocole, il n'est pas infaillible. Du coup, j'expliquais tout à l'heure l'histoire des 15 endroits, le nombre de STR qu'ils étudient. Et en fait, avant, ils en étudiaient beaucoup moins. Et c'est quand ils se trouvent face à des erreurs évidentes qu'ils peaufinent leur protocole. Mais du coup, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas eu ces erreurs évidentes, ils considèrent que le protocole, il est bon. Mais voilà, c'est comme toujours avec la science, quoi. C'est des trucs... c'est vrai jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'est faux, quoi. Et du coup, par exemple, en Angleterre, il y a un moment, ils bossaient sur 6 STR. Et suite à une erreur judiciaire, ou en tout cas, ils sont tombés sur un profil où c'était sûr que c'était pas cette personne. Du coup, c'était, je crois, sur une histoire de cambriolage. Et ils sont. Du coup, la personne, elle habitait hyper loin, genre à 600 bornes de là. Et en plus, elle était gravement malade, du coup, pas en état de se déplacer aussi loin. Enfin, du coup, ils se sont rendus compte que ça avait matché avec un profil qui, ça pouvait pas du tout être cette personne. Et du coup, suite à ce truc-là, évident, ils sont passés de 6 à 10 STR comparés, quoi. Et aussi, il y a des histoires de pollution des échantillons qui sont possibles, que ce soit lors du transport ou pendant les analyses.
Ouais, il y a une autre histoire un peu comme ça qui est assez marrante. En Allemagne, une enquête qui dure pendant 16 ans, quelque chose comme ça. Il y a 32 crimes et délits avec le même ADN. Du coup, les flics, ils sont au taquet pendant 16 ans, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte un jour qu'en fait, l'ADN, il vient de la boîte de production des cotons-tiges qui servent à faire les relevés ADN. Du coup, ça fait 16 ans d'enquête en vrac. C'est assez marrant comme... Et c'est bien, c'est un bel exemple pour montrer que c'est pas vraiment infaillible comme outil.
en tout cas aussi ce qu'ils font avec l'ADN, c'est que même sans s'en servir complètement légalement, bah aussi à des moments ça peut les mettre sur des pistes de personnes, et où en fait ils font des enquêtes à rebours où ils se concentrent, mais comme ils peuvent faire avec d'autres trucs, hein, genre par exemple les notes blanches des renseignements généraux, des choses comme ça, où en fait l'ADN utilisé illégalement les met sur la piste de quelqu'un, et à partir de ça ils vont enquêter sur cette personne et voilà, faire leur enquête à l'envers au lieu de... Au lieu d'utiliser les moyens qu'ils ont d'arriver à une personne, ils trouvent une personne par des moyens qu'ils ne sont pas censés utiliser. Puis à partir de ça, ils essayent de trouver des preuves qui, elles, seront légales, quoi.
Mais on voulait parler un petit peu d'une affaire judiciaire, enfin de l'incendie du coup de 3 fourgons de gendarmes mobiles qui avaient été incendiés et de 2 bus de gendarmerie dans la caserne Jourdan à Limoges en septembre 2017. Du coup, à l'intérieur de la caserne, il y avait eu ces incendies. Il y avait eu une instruction qui avait été ouverte pour association de malfaiteurs et des traces d'ADN qui avaient été retrouvées sur le grillage de la caserne. Et ça montre bien comment ils se sont... servi de l'ADN pour remonter, de ces traces-là, pour remonter jusqu'à une personne. Parce que du coup, ils trouvent ces traces sur le grillage et quand ils les mettent dans le FNAEG, ça ne matche pas avec un profil ADN connu qui serait déjà fiché. Par contre, donc trace, profil, quand ils rentrent la trace, ça ne matche pas. Par contre, trace, ça matche. Et ils... considère que cette trace ADN qui vient d'être prélevée sur le grillage correspondrait à une trace, à une autre trace d'ADN qui avait été mise dans le fichier et qui aurait été prélevée à Toulouse lors d'une action de soutien à des exilés de Calais en 2015, donc plusieurs années avant. Et ils vont baser du coup leur enquête, leur instruction sur... le fait que ces deux traces appartiendraient, d'après eux, à la même personne, en cherchant, du coup, et en couplant, du coup, bah, avec, j'imagine, d'autres techniques de renseignement qu'ils peuvent avoir pour chercher qui, en se disant qu'ils cherchent quelqu'un qui pouvait être, bah, en 2015, à Toulouse et en 2017, à Limoges. Et du coup, petit à petit, ils vont suspecter une personne... qui vont mettre sous écoute ou ils vont mettre des moyens pour essayer du coup de voir si elle dit quelque chose qui laisse penser que ça serait bien elle. Et ils vont prélever son ADN sur son vélo, donc sans son consentement, sans informer la personne. Voilà, ils le prennent discrètement quand la personne a laissé son vélo garé dans la rue. Et du coup, avec accord du proc, mais de façon pas forcément très légale, enfin, c'est tout le flou aussi dont on parlait tout à l'heure, de l'ADN détaché d'un corps, où normalement, ils doivent quand même demander le consentement de la personne avant de déterminer que c'est son profil.
Et puis, il faut qu'il y ait des raisons plausibles de soupçonner, alors que là, a priori, plutôt les raisons plausibles vont arriver à partir du moment où ils chopent l'ADN sur ce vélo, quoi. Du coup, c'est tout le truc à rebours, quoi, en fait. Jusque-là, à part que la personne a vécu aux deux endroits où cet ADN a été trouvé, et c'est pas des raisons plausibles de soupçonner qu'elle ait commis une infraction, quoi. Mais du coup, ils viennent choper l'ADN sur le vélo... voilà, sans, cette personne n'est ni en garde à vue, ni mise en examen, et encore moins condamnée. Du coup, il n'y a pas de raison qu'ils prennent... En tout cas, c'est ce que ses avocats devaient plaider devant la Cour de cassation, mais finalement, ça n'a pas eu lieu pour des schmilblicks juridiques que je n'aurais pas très bien expliqué. Mais en tout cas, du coup, il y a des nullités qui ont été soulevées par ses avocats, mais où pour le moment, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas... La Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée quoi, sur la validité de ce prélèvement ADN sur le vélo. En tout cas, ça n'a pas empêché, mais peut-être ça allait y venir. Quoi,
que... Et du coup, suite du coup, à ça, ils ont arrêté du coup, la personne qui a passé presque un an à peu près en préventive. Et du coup, essentiellement sur la base de ce prélèvement ADN effectué sur son vélo, sous prétexte que ça serait potentiellement elle qui aurait pu être aux deux endroits vécu dans ces deux villes. Du coup, ça montre bien comment ils utilisent aussi l'ADN pour mener des enquêtes au-delà de ce qu'ils annoncent officiellement et en laissant de côté le cadre légal dans lequel ils sont censés faire les prélèvements au prétexte que ça serait un outil formidable pour mener les enquêtes.
Et... ça leur permet de mettre des gens en préventive pendant hyper longtemps. Et comme je disais, de mettre la pression de ouf et de pousser les gens à avouer, par exemple, ce qui n'est pas du tout ce qui s'est passé dans cette affaire-là dont on est en train de parler, mais qui est arrivé dans d'autres affaires, quoi. Que les gens avouent parce que il y a la preuve ADN qui leur est agitée sous le nez et que ça semble...
Ça semble incontestable.
Pas contestable, ouais, voilà.
D'ailleurs, avec ce truc-là, de le présenter comme une vérité, alors que malgré tout, ça reste toujours une probabilité et jamais plus qu'une probabilité. Ça, c'est ce que les avocats ils font depuis que c'est l'argument de l'ADN comme preuve de la culpabilité, il est présenté par les procureurs, quoi. Mais de dire que, en gros, tel que c'est présenté, c'est il y a une chance sur un million que ce soit pas toi. Enfin, la probabilité de que l'ADN ne soit pas le tien, les procureurs, ils les présentent comme ça. Ah oula, je me mélange un peu. Mais... les procureurs disent qu'il y a une chance sur un million que ce ne soit pas toi, alors que si, mettons, on est 60 millions d'habitants en France, ça voudrait dire, plutôt, qu'il y a une chance sur 60 que ce soit toi. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Mais les probabilités, elles sont inversées. Dans le travail du... Enfin, que fait le proc et comment le prend le juge de manière générale, il y a un peu un truc de mettre l'accent sur ta culpabilité plutôt que sur les chances que tu sois innocent dans tout ce travail de... tout le déroulé du procès, là. Et ce qui rend à faire présenter des chiffres énormes et qui rendent... ce truc de probabilité devient... la preuve de ta culpabilité sans aucun doute, alors que dans les faits tu peux avec ces mêmes trucs là dire ben en fait il pourrait y avoir 60 autres personnes qui portent le même ADN que moi et qui pourraient être je sais pas si j'ai
oui puis il y a surtout que l'ADN c'est volatile, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, du coup c'est pas parce que parce qu'il y aurait une trace ADN qui pourrait t'appartenir, qui est retrouvée quelque part, que t'as forcément été à cet endroit, ou que c'est forcément par contact direct que ça a été déposé sur un objet, ou que l'objet, c'est forcément toi. Après, enfin, les objets aussi, ils voyagent de main en main. Enfin, c'est pas parce que t'as touché un objet qui a ton ADN dessus et que l'objet il est retrouvé quelque part que c'est toi qui l'as déposé quelque part. Donc voilà, c'est sûr que c'est présenté comme irréfutable parce que aussi toute l'idéologie autour de la science qui serait objective, non manipulable, mais c'est pas aussi simple que ce qui est présenté, quoi.
Ça fait un peu c'est un peu le même genre de statut que les images, les vidéos et tout ça. J'ai l'impression que normalement à la base, il y a en droit français, alors peut-être je vais dire des conneries, mais allons-y. Il n'y a pas de preuve parfaite ou quoi. Il y a du coup des faisceaux de présomption. Du coup, il faut qu'il y ait plusieurs éléments. Et ça va faire que le juge a une intime conviction, quoi. Mais du coup, normalement, il ne se base pas sur un élément unique de vu qu'il y a ça, du coup, c'est sûr, quoi. C'est ce qu'ils appellent le faisceau de présomption, qui est différent de peut-être dans d'autres manières de faire de la justice dans d'autres pays. Mais en tout cas, en France, c'est censé être comme ça. Et du coup, là, ce truc d'ADN, ils ont quand même tendance à l'utiliser Justement comme preuve parfaite. Et j'ai l'impression que les images, les vidéos et tout ça, il y a aussi ce truc-là un peu de si on doit sur une vidéo en train de faire un truc, c'est un peu... ça vaut aveu, quoi. Parce que sinon, en fait, la vraie seule preuve parfaite... En droit français, j'ai l'impression, c'est quand les gens avouent. Bon, après, ce qui aussi... Il y a aussi eu des histoires récentes où on voit que en fait les gens avouent parce que les flics leur mettent tellement la pression en garde à vue que, enfin je sais pas, il y a eu l'histoire de Viry Châtillon, mais bon, je vais pas m'étaler là-dessus, on en avait déjà parlé ici, mais où en fait les flics mettent tellement la pression aux gens, et notamment sur des personnes assez jeunes, qui finalement arrivent à leur faire croire qu'ils ont oublié qu'ils avaient commis le délit, quoi. Genre, bon, bref. Mais du coup, ouais, voilà, plus trop jouer en venir, mais y a un peu ce truc-là pour l'ADN comme pour les images, que ça devient la preuve parfaite et qu'il n'y a plus besoin d'un faisceau de présomption pour condamner les gens, quoi. Alors qu'encore une fois, comme on l'a dit, en fait, c'est la science, ça change tout le temps. Il y a aussi ce truc que ce que je racontais en Angleterre. En fait, avant, ils trouvaient que 6 STR, c'était suffisant. Il y a plein de gens qui ont dû aller en prison sur cette base-là. Puis une fois, ils se sont rendus compte qu'en fait, ça marchait pas, quoi. Enfin, que en fait, ils comparaient pas assez de trucs pour avoir des profils uniques. Et du coup, ils augmentent à chaque fois leur protocole. Mais c'est possible aussi qu'un jour, ils se rendent compte que 15, c'est pas suffisant et qu'ils vont trouver 2 personnes qui ont exactement le même profil. Alors que c'est 2 personnes différentes, quoi. C'est aussi une possibilité, quoi, vu que de toute façon, tant qu'ils trouvent pas un contre-exemple, ils considèrent que c'est la réalité, quoi. Bah, et le dernier truc dont on voulait parler concernant l'ADN, c'était, du coup, comme on dit, c'est hyper volatile, on en fout partout. Et du coup, on voulait parler vite fait de comment ne pas en foutre partout. Et du coup, je vais parler surtout de ce qu'il y a dans une brochure qui s'appelle BlablaDN, qu'on mettra en lien sur le blog. Du coup, notre blog, pour rappel, c'est carapatage.noblogs.org. Du coup, dans cette brochure, ils expliquent qu'il y a 4 manières de laisser de l'ADN sur un lieu où on fait une action potentiellement répréhensible. Donc, en laissant du matériel volontairement, ou alors en oubliant involontairement du matériel sur place, ou en faisant tomber directement de l'ADN de notre corps, ou encore en déposant par contact, en touchant quelque chose. Donc, par exemple, les pistes de réflexion, tout en sachant que l'idée, c'est de minimiser les risques, qu'il y ait de moins d'ADN possible et qu'il soit le plus dégradé possible. C'est pas, enfin, du coup, il n'y a pas de risque zéro de mettre aucun ADN, mais en tout cas, l'idée, c'est de tendre vers ça où il y aurait le moins possible et qui serait dégradé, c'est-à-dire dégradé, j'expliquais que c'était des séquences. Et du coup, l'idée, c'est qu'il y a la possibilité de découper ces séquences au max pour qu'ils ne puissent pas les analyser, en gros. Et du coup, pour ça, les pistes qu'il y a dans la brochure, c'est par exemple être le plus couvert possible, avoir des vêtements qui sont propres, voire neufs. Il y a aussi tout un protocole qui est détaillé, que je ne vais pas moi détailler, mais que vous pourrez retrouver dans la brochure, pour nettoyer son matériel dans un bain de Javel à une concentration précise et en prenant des précautions pour ne pas, pendant ce nettoyage, remettre de l'ADN et puis après faire en sorte que ça reste propre une fois que ce nettoyage a été fait, quoi. Il y a aussi la piste de brûler l'ADN, du coup c'est sensible à la chaleur et par exemple tu fumes une clope, on te fait fumer une clope en garde à vue, si tu brûles l'endroit où t'as mis tes lèvres avec ton briquet, par exemple ça dégraderait en tout cas l'ADN. Il y a aussi, ils expliquent aussi que quand il y a plusieurs ADN sur un prélèvement, c'est plus compliqué pour eux de séparer les ADN et d'établir des profils, quoi. Plus il y en a, plus c'est compliqué. Et du coup, il y a par exemple la technique qui est assez répandue de quand on est en garde-ave, de frotter, genre si on a mangé avec des couverts, de les frotter au sol pour qu'ils prennent bien l'ADN tous les gens qui étaient là avant et qu'ils puissent pas isoler un ADN là-dedans, quoi. Voilà, c'était un peu vite fait, mais du coup, la brochure est vachement plus complète, avec, comme je disais, un protocole pour faire des bains de Javel et tout ça, et vous pourrez la retrouver sur le blog, et c'est tout ce que j'avais dit.
Et maintenant, on va écouter Fin de journée de Hors Contrôle. Vous êtes bien de retour sur Carapatage. Donc on vient d'écouter Fin de journée de Hors Contrôle et on a parlé de l'ADN, du fichage ADN un peu tout au long de l'émission. Et pour finir l'émission d'aujourd'hui, on a une petite chronique faite par Émile, du coup, qui n'est pas avec nous au studio ce soir, mais qui a préenregistré cette chronique pour l'émission. Ça va parler d'un livre qui s'appelle Subtil Béton et qui a été écrit collectivement à partir d'ateliers d'écriture. Voilà.
Salut. Vous connaissez le livre Subtil Béton ? Subtil Béton, c'est un roman qui est sorti en janvier 2022, il y a tout juste un an, à l'heure où je vous parle, et qui a été écrit par un collectif qui s'appelle Les Agglomérés. C'est pas souvent qu'il y a des romans, des longues histoires qui sont écrites en groupe. Ce livre, il est né d'ateliers d'écriture qui ont été initiés en 2007. Ça fait 15 ans de processus, alors franchement, dit comme ça, ça fait balèze. Et au début, c'était pas censé donner un roman, et au fur et à mesure des années, l'idée a germé et s'est construite. Des tas de personnes ont participé aux premières écritures, aux premiers ateliers. D'autres ont relu, accueilli les ateliers, soutenu, mis en page, illustré et tout le reste. Ça se voit quand on lit parce qu'il y a différents styles d'écriture, différentes ponctuations même, et aussi différents prismes de lecture des événements. Et pour moi, ça a été d'une grande richesse et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai envie de vous parler de ce livre. J'avais aussi envie de vous l'évoquer parce que c'est un livre qui, personnellement, m'a donné la patate, même si parfois ça parle de choses, enfin souvent d'ailleurs, ça parle de choses révoltantes et du coup de personnes qui sont révoltées, mais qui doutent aussi, qui réfléchissent et qui sont parfois maladroites. Et j'avais aussi envie de vous en parler parce que ça se passe initialement dans un contexte de mouvement social et du coup ça résonne un petit peu avec des choses qu'on vit régulièrement mais qu'on vit aussi particulièrement ces derniers temps. Chaque chapitre correspond à ce qui se passe dans la tête d'une personne et ça tourne. Donc il n'y a pas un seul personnage principal mais plusieurs. Au tout début on est avec Zoé. Zoé c'est une lycéenne et Mariana qui est une personne d'une soixantaine d'années. Et elles sont secouées par une manif, elles sont épatées par la foule qui est extrêmement nombreuse, elles sont bousculées. Et ça, c'est au sein d'un mouvement social qui devient insurrectionnel dans un monde qui ressemble au nôtre, en pire, avec des traits qui sont tirés, mais la base est quand même la même. C'est donc une insurrection qui se fait horriblement réprimer. Et on rentre après dans un contexte méga autoritaire, où on se retrouve plusieurs années après avec un nouveau contexte gouvernemental qui est axée sur la surveillance technologique ultranationaliste, raciste, précarisante avec des classes sociales qui sont vachement marquées, et un discours aussi pseudo-écologique qui précarise encore plus les pauvres. Et donc on va vivre auprès de différentes personnes qui vivent dans ce contexte de merde et qui essayent de s'entraider, de s'organiser politiquement après une période de chamboulement et de répression intense où les réseaux de solidarité sont démantelés. C'est aussi des personnes dans le livre qui essayent d'aller bien et qui vivent avec leurs émotions, avec leur passé, leurs histoires d'amitié, d'affection, de famille, leurs histoires émotionnelles propres. Et ça fait du bien aussi de lire ça dans des contextes qui sont écrits collectivement. Certains sont dans la clandestinité, plutôt à l'écart des villes, d'autres sont plus intégrés au système. Il y en a qui font le pont entre ces mondes, d'autres qui passent de l'un à l'autre. Et au fur et à mesure que le roman avance, malgré la répression, des liens se tissent et des perspectives s'ouvrent. Moi, ce que j'ai adoré, c'est le mélange entre une forme d'intimité avec des réflexions propres à chaque personnage et le récit construit classiquement sur des rebondissements, des aventures, une fiction riche auquel tu t'accroches et tu fermes ton bouquin à contre-cœur le soir en te disant « Ah, j'ai trop envie de savoir la suite !» Il y a aussi des choses que moi j'ai trouvées énervantes. C'est pas parce que je vous en parle que forcément j'ai trouvé ça parfait. Il y a des choses qui m'ont pas plu parce que tu vois plein de limites de l'organisation collective qui se veut sans chef. Il y a des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord politiquement. Des fois il y a des sous-entendus où ça peut renvoyer à des conflits que en tant que lectrice ou lecteur tu as vécu dans la vraie vie. Mais globalement, comme c'est un roman qui est écrit à plusieurs paires de mains, ben, c'est pas dogmatique et moi ça m'a donné la pêche. Et c'est pour ça que je vous conseille la lecture de ce roman. Donc c'est Subtil Béton qui a été écrit par le collectif des agglomérés.
Voilà, merci Émile pour cette chronique préenregistrée. Fallait augmenter un peu le son, peut-être, de votre poste radio pour bien entendre. Désolée.
Désolée, on était au max. On n'a pas pu faire mieux.
Et voilà. Et donc, on espère en tout cas que ça vous aura donné envie de lire ce livre. Et vous pouvez réécouter toute l'émission qui va être mise sur notre blog bientôt. Et donc, l'adresse du blog, c'est carapatage.noblogs.org. Vous pouvez retrouver l'émission et vous pourrez aussi, si ça, jamais ça vous a donné envie, écouter nos autres émissions, et notamment celle sur le fichage des empreintes génétiques.
Des empreintes digitales.
Des empreintes digitales, oui, pardon. Les empreintes génétiques, c'était aujourd'hui. qui est l'émission 40, Carapatage 40. Du 8 décembre, du coup, qui est déjà sur notre blog aussi, si vous voulez l'écouter. Ben voilà, merci.
Et la prochaine émission, du coup, oui, on sera à nouveau en direct le 1er mars. Et a priori, ce sera un sujet sur la cavale, avec
entre autres,
enregistrement de quelqu'un qui parle de sa cavale, de quelqu'une en l'occurrence.
Et il y aura aussi d'autres choses dans l'émission qu'on vous laissera découvrir. Et ben, bonne soirée à tous, et courage à toutes celles et ceux qui sont enfermés, et à tous leurs proches à l'extérieur. Et bonne soirée.
Venez à la manif samedi à 14h à Porte Dorée contre les CRA et la loi Darmanin.
Et pour finir...
Ceux qui peuvent et qui ne sont pas enfermés.
Oui. Et du coup, on va se quitter sur une dernière musique qui est Mississippi Goddam de Nina Simone. Salut.
Salut.
À la prochaine.
Mississippi Goddam is our last tune. We had some requests for it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Can't you see it? I know you can feel it. Can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset, and Governor Wallace has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Hound dogs on my trail. School children sitting in jail. Black cat crossed my path. I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on the land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. People just about do. I've been there, so I know. They keep on saying go slow. That's just the trouble.
Too slow.
Washing the windows.
Too slow.
Picking the cotton.
Too slow.
We're just plain rotten. Communist plot.
equality for my sister, my brother, my people and me. You lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady, and you'd stop calling me Sister Sadie. Is full of lies. We are all gonna die and die like flies. I don't trust nobody anymore. They keep on saying go slow. That's just the trouble. Desegregation, mass participation, unification. Do things gradually. We'll bring more.
Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur,
en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h.
Sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage,
contre toutes les cages.